À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec
Pierre Fimon, diplomate français.
Deuxième épisode, un beau métier ou une entreprise ingrate. Bonsoir Pierre Fimon.
Bonsoir.
Ce soir, j'aimerais qu'on s'approche au plus près de ce métier de diplomate qui a été le vôtre pendant quelques décennies maintenant. Souvent, les diplomates disent que c'est difficile d'expliquer ce qu'ils font. Pour quelle raison ?
C'est pas plus difficile qu'un autre métier, non, je suis d'accord.
Moins difficile que physicien ou mathématicien ?
Oui, je crois comme vous. Je pense que l'un des problèmes du métier de diplomate, c'est qu'il a été très souvent dans le passé caricaturé. Et on retrouve, vous savez, des phrases étonnantes d'auteurs du XVIIe ou du XVIIIe siècle sur « ne croyez jamais un diplomate, c'est forcément un menteur », etc. Ou bien les publicités du chocolat Ferrero, donc un diplomate, c'est avant tout un mondain qui fait des réceptions, etc. Et donc, c'est un peu ça, à mon avis, qui fait que quand on veut expliquer le métier de diplomate, il faut franchir cette première barrière de considération un peu péjorative à l'égard du métier. Deuxième raison, peut-être, j'ai entendu de grands spécialistes de la diplomatie dire qu'au fond, depuis un certain nombre d'années, la diplomatie n'a plus connu de vrai succès, que la diplomatie s'enlise, tourne en rond et toujours dans des impasses. Et donc là aussi, il y a tout un travail à faire pour expliquer que les succès de la diplomatie, parfois ils sont ténus, mais ils permettent de progresser, que c'est souvent une affaire de longue haleine, que deuxièmement, on peut avoir des succès, mais il peut y avoir des revers ensuite. Prenez ce qui me semble avoir été quand même l'un des grands succès de la diplomatie international de ces dernières années, qui était l'accord avec l'Iran sur son programme nucléaire en 2015, et bien malheureusement Trump est arrivé derrière et a tout remis en cause. Mais c'était quand même un succès. Et donc il faut parfois chercher avec un peu plus de perspicacité là où sont les succès de la diplomatie. Mais la diplomatie est un vrai métier, ça existe et il faut le faire connaître, c'est vrai.
Vous dites un vrai métier, est-ce qu'on peut creuser un peu ? C'est-à-dire, est-ce que vous diriez que être diplomate, c'est une façon d'être, une façon de parler, une façon d'agir, les trois à la fois ?
C'est les trois à la fois, c'est tout ça comme... tout métier, en tout cas de la fonction publique, dans l'administration. Quand vous êtes aussi, quand vous êtes un préfet, vous devez aussi avoir une certaine façon d'être, mais également connaître, j'allais dire, presque les trucs du métier, les bonnes pratiques, les écueils à éviter. Et donc, ça s'apprend. Moi, par exemple, diplomate, je ne saurais pas faire le maintien de l'ordre comme sait le faire un préfet. À l'inverse, je prétends que être diplomate, c'est aussi savoir conduire une négociation à Bruxelles avec 27 représentants d'États membres autour de la table. Eh bien, quand vous arrivez dans la salle et que vous asseyez avec eux et que vous présidez la séance, il faut savoir gérer une réunion de ce type. Écouter les uns les autres, être attentif, savoir parfois interrompre une séance, éventuellement. Il y a une anecdote qui m'a toujours beaucoup frappé. Alors je vais vous la livrer parce que ça rendra cette discussion plus vivante. Nous discutions un soir, il devait être 2h du matin, une discussion sur ce qu'on appelle les conventions avec les pays d'Asie, du Pacifique et d'Afrique, les pays ACP. Toujours très long, notamment le volet commercial, où il faut définir de nouveaux droits de douane pour les produits importés d'Afrique. Et bien évidemment, à 2h du matin, une délégation d'un État européen bloqué. C'était son ambassadeur qui était là et qui disait à propos d'un pays africain que jamais il n'accepterait l'importation des avocats de ce pays-là. Il en allait d'une concurrence difficile avec son propre pays et donc jamais de la vie, il était prêt à passer toute la nuit, mais jamais il n'y aurait d'accord sur le droit de douane qu'on voulait donner à ce pays africain. On décide alors de demander à la Commission de nous dire les données techniques de ce problème. Et le commissaire compétent est revenu à un moment et a dit « Pour répondre à votre demande, je dois vous dire que je suis un peu interloqué parce qu'au fond, nous n'apportons pas d'avocat de ce pays-là ». Gêne considérable autour de la table pour le malheureux représentant du pays concerné qui avait l'air un peu d'un imbécile, en fait. Et à ce moment-là, le président de séance, dont je dois dire qu'il était Roland Dumas, et que j'admirais beaucoup, a dit « Ce que je propose à tout le monde, c'est d'arrêter peut-être car nous sommes fatigués et nous reprendrons demain la séance à midi ou à 2 heures. Et donc pour le moment, nous arrêtons là, laissant complètement de côté l'affaire de l'avocat. On n'en a plus jamais parlé ensuite. » Donc, savoir être diplomate dans une séance comme celle-là, c'est savoir ne pas humilier l'un des pays présents qui a pu faire une erreur de négociation et trouver le moyen habile de lui permettre de sauver la face.
C'est une forme de délicatesse.
Oui. Oui, c'est une forme, d'intelligence, je dirais, l'intelligence de la situation dont je parlais tout à l'heure. Vous aurez des présidents qui seront trop heureux d'appuyer, de dire « alors vous nous avez embêtés pendant 3 heures sur cette affaire d'avocat alors que ça n'existe pas, etc. » Non, il y a des bons présidents qui savent dire « passons discrètement par-dessus cet obstacle ».
J'ai intitulé cette deuxième émission, Pierre Vimont, un beau métier ou une entreprise ingrate? Je mets un point d'interrogation. Bien entendu, nous interrogeons le métier ce soir. Un beau métier ou une entreprise ingrate? En fait, j'ai repris cette expression d'entreprise ingrate dans un livre paru chez Grasset, signé Gérard Araud, qui a été votre successeur à Washington, quand vous étiez diplomate, ambassadeur là-bas. Son livre s'intitule « Histoire diplomatique, leçon d'hier pour le monde d'aujourd'hui ». Et c'est un livre dans lequel il s'interroge précisément sur le métier de diplomate, d'hier à aujourd'hui. Entreprise ingrate, quand vous parliez de succès, d'échec, vous reprendriez à votre compte cette expression ?
Oui, oui, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le livre de Gérard Araud est un excellent livre, si je peux faire de la publicité pour lui, pourquoi pas. Non, mais c'est un livre très utile parce qu'il essaye de tirer les leçons de l'histoire pour servir à l'histoire de notre temps et à la
diplomatie. Réarmer idéologiquement, dit-il,
oui,
notre temps.
Oui, oui. Et je trouve que c'est toujours une excellente démarche. Je reviens un peu à ce que je disais dans la première émission sur les leçons que j'avais pu tirer de l'expérience de mon père. Les leçons que j'ai pu tirer en discutant avec des diplomates qui m'avaient précédé, je trouve que c'est toujours extrêmement utile. Et donc, je trouve que la démarche intellectuelle de ce livre est très utile. Deuxièmement, oui, c'est ingrat. C'est ingrat parce que ça peut être parfois très fastidieux. Il faut aller parler à beaucoup de monde, rencontrer souvent beaucoup de portes qui se ferment, de gens qui veulent pas vous écouter. Et il faut recommencer, garder le contact. Pour rester dans l'actualité, cette mission qui m'avait été confiée sur la Russie pour relancer le dialogue avec la Russie était une mission particulièrement ingrate parce que j'avais en permanence en face de moi des interlocuteurs qui ne manifestaient aucune idée, même nuance, même volonté d'ouvrir un tout petit peu le dialogue pour essayer de trouver un terrain commun sur lequel on pourrait progresser. Et on a vu les résultats le 24 février dernier. Cette situation-là, on la rencontre très souvent dans la diplomatie. Et donc, il ne faut pas se décourager. Il faut continuer, il faut revenir à la charge. Il faut continuer et parfois, on arrive quand même finalement à faire avancer les choses.
Donc la persévérance est une deuxième qualité du diplomate, on pourrait dire, après l'écoute.
C'est vrai, il faut de la persévérance, il faut être toujours capable, au-delà même de l'écoute dont je parlais tout à l'heure, de comprendre le point de vue de l'autre. Il ne s'agit pas simplement d'écouter les positions qu'il défend et de se dire « bon, ben, voilà », c'est de se dire « pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Quel est son problème ? Quel est le problème chez lui ?» Vous savez, on parle beaucoup de réseau diplomatique. L'un des très grands intérêts du réseau diplomatique, c'est par exemple, quand j'étais à Bruxelles et que le délégué de tel ou tel pays prenait des positions qui étaient pour nous un peu incompréhensibles, pouvoir appeler mon homologue, mon collègue français dans le pays concerné et de lui dire, à ton avis, pourquoi est-ce qu'ils tiennent cette position-là qu'on ne comprend pas, nous, à Bruxelles? Et d'avoir un collègue qui va farfouiller, regarder un peu la politique intérieure, découvrir peut-être que le ministre des Affaires étrangères, ou si on parle de transport, si on est dans un sujet de transport, le ministre des Transports vient d'une région qui a de vraies difficultés dans le domaine des transports, eh bien, ça aide à faire avancer. À ce moment-là, on peut reprendre la discussion et dire à le diplomate qu'on a en face de nous et qui bloque, est-ce qu'on peut t'aider? Je crois comprendre que ton problème est peut-être là, etc. Et c'est comme ça que vous avancez. Donc, avoir cette capacité d'analyse, d'intelligence de la situation, c'est très utile.
Ça suppose une très grande connaissance du terrain sur lequel vous allez travailler. Comment travaille le diplomate que vous êtes, je ne parle pas en général, comment travaille le diplomate que vous êtes? Est-ce que vous lisez beaucoup? Est-ce que vous allez consulter des experts, des historiens, des spécialistes des régions?
On fait les deux, et le problème est un problème de temps. La première chose, c'est que nos collègues diplomates en poste à l'étranger nous envoient tous les jours une correspondance qui est souvent extrêmement riche et pleine d'enseignements. La difficulté, c'est d'avoir le temps de le lire. Je vous disais tout à l'heure qu'on m'a souvent attribué ce défaut de travailler tard le soir. Mais dans une journée où on passe son temps à recevoir des gens, soit du ministère, soit de l'extérieur, de les écouter, etc., de lancer des commandes et des instructions à droite ou à gauche.
Il faut gérer les urgences aussi.
Voilà, il faut gérer les urgences. Le soir, quand le calme revient un peu, c'est le moment où on peut commencer à lire ce qui a été envoyé par nos postes, comme on dit, et d'en retirer un savoir, une compréhension, une connaissance des choses qui peut être très utile. Par ailleurs, lire les ouvrages d'anciens diplomates ou de chercheurs, oui, il faut aussi avoir le temps de le faire. Les articles que publient ces chercheurs, les interviews qui sont données par d'autres diplomates, tout ça est très important. Et en réalité, ce dont je m'aperçois aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le temps de faire tout ça et qu'au fond, tant qu'on est en activité, il nous manque des tas de connaissances, il nous manque le recul. Et ce que je perçois depuis que je suis parti à la retraite, c'est toutes les erreurs que j'ai faites, faute d'avoir toutes ces connaissances que je peux avoir maintenant aujourd'hui où j'ai plus de temps. Et donc il faudrait peut-être savoir mieux organiser notre métier pour laisser aux diplomates un temps de respiration pendant un an ou deux, non pas pour qu'ils ne fassent rien, mais que par exemple, ils aillent travailler ici au centre d'analyse et de prévision et de stratégie, comme on l'appelle ici, le CAPS, où on a un peu de temps pour faire justement cette recherche, où des diplomates travaillent avec des chercheurs et peuvent ensemble réfléchir un peu à plus long terme. Il faudrait avoir cette respiration-là pour les diplomates, leur permettre de prendre un peu de recul et de revenir ensuite dans le métier, ce que moi je n'ai réussi vraiment à faire que quand je me suis retiré, et c'était trop tard.
Pierre Vimont, une grande partie de votre carrière a été en Europe. A commencé d'ailleurs par votre premier poste qui était à Londres, du temps où Londres était encore dans l'Union européenne en tout cas. Vous étiez à Londres, vous étiez secrétaire à l'ambassade de France, les années 77-81. Puis ensuite, les postes européens se sont succédés. Alors je vais en citer quelques-uns parce que c'est quand même important de d'émailler nos entretiens de cette énumération de vos postes. Entre 86 et 2002, vous avez été, et vous me reprenez si je me trompe, directeur de cabinet d'Elisabeth Guy Guigou, ministre délégué aux Affaires européennes. C'était dans le gouvernement Rocard entre 1990 et 1993. Vous avez été directeur du développement de la coopération scientifique et technique, représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne entre 1999 et 2002. En quelque sorte ambassadeur auprès de l'Union européenne. Vous êtes revenu en 2010 comme secrétaire général du Service européen pour l'action extérieure, ce qui correspond dans le langage du néophyte à numéro 2 de la diplomatie européenne, le diplomate, disons, auprès du ministre des Affaires étrangères de l'Europe. C'est un poste clé. Et puis en 2015, vous avez été envoyé personnel du président du Conseil européen, Donald Tusk. Cette énumération, non pas pour faire une énumération gratuite, Pierre Vimon, pour vous demander s'il y a un savoir-faire français, s'il y a une spécificité de la diplomatie française que vous avez pu éprouver quand vous étiez en poste en Europe, que vous avez pu mettre en œuvre. Est-ce qu'il y a une tradition française de la diplomatie qui est différente des autres ?
Il y a, en tout cas dans ce ministère, un effort pour faire en sorte que les diplomates, quand ils entrent dans ce ministère, peuvent aller dans des postes parfois un peu différents, puis peu à peu se spécialisent pour les questions du Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie, les questions économiques, et en particulier les questions européennes. Il y avait toujours dans ce ministère une tradition d'ailleurs des eurocrates, des gens qui se spécialisaient, des diplomates qui se spécialisaient dans les affaires européennes, et auxquels on reprochait d'ailleurs d'être devenus des spécialistes qui parlaient un langage que personne d'autre ne comprenait et qui se plaisaient à rester entre eux et passer leur temps en réalité à aller soit à traiter des questions européennes à Paris, puis aller à Bruxelles, continuer le même travail, puis revenir. Et il y a du vrai dans cela. Et moi-même, je fais partie de ceux qui sont considérés comme ayant fait une grande partie de sa carrière sur les questions européennes, être devenu un spécialiste. J'ai quand même essayé à intervalles réguliers de m'éloigner un peu de ça, parce que je trouvais que c'était important d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passait dans le monde. D'où le souci après mon passage au cabinet d'Elisabeth Guigou, qui était la ministre des Affaires européennes, où là je suis resté, ça a été 3 ans. Et ça a été en particulier toute l'affaire de la ratification du traité de Maastricht, qui a été quand même un moment très intéressant. Mais après ça, là encore, on est venu me voir en me disant, est-ce que tu veux venir travailler sur les affaires de coopération scientifique, culturelle et technique? Et je me suis dit oui. Et je suis parti pendant 4 ans. Beaucoup de mes collègues ici au Quai d'Orsay m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire dans ce monde tout à fait nouveau? Et j'y ai pris un grand plaisir parce que ça m'a fait découvrir tout le monde de l'éducation nationale, de la recherche scientifique, de la coopération universitaire. Et c'était tout à fait passionnant. Et puis, on est venu me rechercher pour me dire, au bout d'un moment, maintenant, il faut que tu reviennes dans les affaires européennes. J'étais très content d'y revenir. Mais quand, après mes 5 ans de cabinet ministériel, on m'a dit, on va te nommer, si tu étais d'accord, à Washington, je me suis dit, c'est très bien, je vais aller faire quelque chose de nouveau, là encore, aller aux États-Unis. J'y avais vécu comme jeune enfant, j'étais content d'y retourner. Et puis, là encore, on est venu me rechercher pour retourner à Bruxelles, au nouveau service d'action extérieure. Donc, au fond, ce ministère a créé des spécialistes et aime bien les récupérer pour les remettre sur les dossiers pour lesquels ils ont une petite expertise. Et donc, oui, il y a cet aspect-là dans notre diplomatie. Cela dit, quand je regarde du côté de nos pays proches, la Grande-Bretagne ou l'Allemagne, vous avez aussi dans ces pays-là des spécialistes des questions européennes. Et c'est d'ailleurs des gens avec qui j'ai beaucoup travaillé tout au long des différentes années.
Ma question était plus sur la façon d'être ou la façon de faire, qui vient d'une formation, qui vient d'une culture. Est-ce que parfois vous avez été surpris par les façons de faire de vos collègues européens qui n'ont pas les mêmes cultures que la culture française?
C'est-à-dire, au-delà même de la diplomatie, vous avez des traditions administratives extrêmement différentes. Vous parliez tout à l'heure de ma première expérience à Londres. Je suis de ceux qui continuent à penser que l'administration britannique est un modèle pour nous tous, en particulier par sa capacité à faire circuler l'information entre les différents ministères et au sein de chacun des ministères. Il y a une générosité chez le fonctionnaire britannique à diffuser son savoir, ses connaissances à tout le monde, parce que il pense que ça servira l'intérêt général. Les Français sont pas du tout comme ça. On garde l'information pour soi comme une richesse, comme un avantage, comme une valeur ajoutée par rapport aux autres, dans ce qui est souvent une grande compétition entre les uns et les autres. Vous n'avez pas ce même degré de compétition dans l'administration britannique. Et je me suis toujours demandé pourquoi. Et je me trompe peut-être totalement, mais mon raisonnement, mon analyse, c'est que les Britanniques attachent une importance aussi grande à leur vie privée qu'à leur vie professionnelle. Et que grâce à ça, ils arrivent à relativiser l'importance de leur vie professionnelle. Et je trouve que ça, c'est une grande qualité. Et ça, nous ne l'avons pas. Nous avons d'autres qualités que nos partenaires nous reconnaissent, dans notre capacité, par exemple à Bruxelles, d'arriver avec une position française qui a fait l'objet au préalable de toutes les discussions nécessaires dans le grand circuit interministériel, ce qui fait que nous sommes une diplomatie à Bruxelles assez fiable. Quand elle prend des positions, elle va pas changer du jour au lendemain, comme ça peut arriver chez d'autres, parce que tel ou tel ministère dans la capitale a dit « mais ce que vous avez dit à Bruxelles n'est pas du tout ce à quoi je suis d'accord ». Nous prenons notre temps pour définir notre position, mais une fois qu'elle est définie au niveau interministériel, c'est une position que nous pouvons défendre. Donc il y a le sentiment d'un certain professionnalisme reconnu chez nos partenaires vis-à-vis de la diplomatie française.
Vous parlez de la spécialité ou des spécialités que permettent ce ministère. Peut-être la spécialité est-elle un peu à part dans un monde qui paraît, encore une fois pour le Quidam, extraordinairement divers. Quand on prend votre parcours, Pierre Vimont, que ce soit directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, que ce soit ambassadeur, que ce soit médiateur, que ce soit représentant ou envoyé spécial, on comprend donc que tous ces postes font partie d'un même métier, qui est le métier de diplomate. Peut-être est-ce là l'une des raisons pour lesquelles c'est si difficile de faire comprendre ce métier, qui alterne d'ailleurs entre, ça c'est traditionnel aussi en France, entre l'administration centrale, donc le Quai d'Orsay, disons, et puis des postes à l'étranger. Donc il y a à la fois la spécialité et une extraordinaire diversité.
Oui, vous avez raison. Sous un double angle qu'on retrouve dans tous les ministères des Affaires étrangères, il y a l'angle géographique. Vous êtes un jour nommé à Londres, le lendemain à Washington. J'aurais pu me retrouver en Asie ou en Amérique latine. Ça n'a pas été mon cas. Mais d'autres de mes collègues ont fait des voyages à travers le monde, tout à fait étonnants. Et puis il y a la dimension sectorielle. C'est-à-dire qu'un jour, on vous demande de travailler, par exemple, sur la politique intérieure du pays dans lequel vous êtes. Moi, dans mon premier poste à Londres, on m'avait demandé de suivre la politique intérieure britannique, l'Irlande du Nord, les conférences des partis politiques à Brighton ou à Blackpool, d'aller presque tous les jours au Parlement, à la Chambre des communes pour voir les débats. Et puis, ensuite, on m'a plongé dans les dossiers européens les plus complexe, l'agriculture, la santé, les transports, et puis ensuite, ça a été la coopération scientifique. J'ai eu aussi une période où, ici au ministère, on m'a demandé d'être l'un des porte-paroles du ministère, donc j'ai fréquenté beaucoup vos collègues de la presse pendant 4 ans ou 5 ans. Donc c'est la richesse de ce...
Ce qui en fait un beau métier, voilà. Une entreprise ingrate, mais on va dans l'autre sens, mais un beau métier.
Un beau métier, tout à fait.
C'est aussi un corps. Voilà, le corps de la diplomatie. Il se trouve qu'en avril 2022, un décret qui s'inscrit dans la réforme de la haute fonction publique et qui avait été prévu par Emmanuel Macron lors de son premier quinquennat, un décret donc a annoncé officiellement la suppression du corps diplomatique, ce qui a provoqué une assez forte inquiétude de la part des diplomates français vis-à-vis de l'avenir de la diplomatie. Comment avez-vous, vous, vu, perçu, reçu cette nouvelle, cette inquiétude du corps de la diplomatie? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose d'ouvrir le recrutement ou pas, Pierre Limon?
En un mot, commençant, moi, ce n'est pas la disparition du corps diplomatique en tant que tel qui m'a embarrassé ou gêné. C'est précisément cette idée qu'à travers un recrutement totalement ouvert qui peut évoluer tout au long d'une carrière, on semble ignorer que c'est un vrai métier et qu'il y a une vraie expertise, que j'ai essayé d'expliquer tout au long de cette émission. C'est-à-dire que le métier de diplomate, ça s'apprend au fil des années, ça repose sur une certaine expérience, et ne pas tenir compte de cette expérience à mesure qu'on avance dans la carrière, c'est le risque d'affaiblir notre diplomatie. Et je dirais la même chose pour la carrière préfectorale ou pour la carrière dans un autre ministère des Affaires sociales ou autre. Il y a un moment où après avoir acquis toute une expérience, vous êtes devenu un élément utile pour ce ministère, et il faut que vous y restiez. Vous dire, ah non, maintenant on va t'envoyer dans un autre ministère technique, à mon avis, est une perte de substance, une perte d'expertise, et donc évidemment c'est se tirer un peu une balle dans le pied, à mon avis. Donc c'est là où il me semble qu'il faut réfléchir. Alors j'entends bien, de tous côtés on me dit, non mais la suppression du corps diplomatique n'est pas du tout une manière de remettre en cause le métier de diplomate. Au contraire, il faut le renforcer en lui permettant de s'ouvrir aux autres et d'acquérir éventuellement une connaissance d'autres dossiers qu'il n'avait pas aujourd'hui. Oui, pourquoi pas? Moi, je suis tout à fait d'accord et ça me paraît même important. Je crois simplement qu'il faut faire attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, en d'autres termes, et de ne pas perdre ce qui fait quand même aussi la valeur de ce métier dont je disais précisément qu'il s'acquiert sur le terrain par la pratique, et que quelqu'un qui a commencé à avoir une bonne pratique de ce métier lui demandait de partir ailleurs et un risque, encore une fois, de perdre un peu de notre force.
La pratique, on la verra demain avec vous, Pierre Vimon. En particulier, on se demandera si un diplomate doit parler avec tout le monde et tout le temps, ou si il se fixe des limites, et si oui, lesquelles? Quelle est l'éthique du diplomate, par exemple, par temps difficile? Mais j'ai juste une petite question pour terminer, puisqu'on a tourné autour de ce rôle du diplomate et ce beau métier qui est aussi une entreprise ingrate. Est-ce que la voix fait partie du métier? Est-ce que votre voix, la douceur de votre voix, vous l'avez travaillée au fil du temps, ou est-ce qu'elle est naturelle, celle-ci?
Je crains qu'elle ne soit naturelle. Vous savez, comme souvent, certains peuvent aimer votre voix, vous-même, vous ne l'aimez pas. Je n'ai jamais beaucoup aimé ma voix, mais voilà, elle est comme ça.
Vous avez conscience que c'est une voix de diplomate?
Je ne sais pas. Certains me l'ont dit, parfois, mes collègues à Bruxelles, mais je n'en sais trop rien.
Bonne soirée, merci à vous, Pierre Vimon.
Bonne soirée.
C'était À Voix Nue avec le diplomate Pierre Vimon, chargé de programme Daphne Abgral, prise de son Loïc Duros, réalisation Guillaume Baldi. Une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.